À l'heure où les dirigeants de notre monde continuent à construire leur tour de Babel, dans le marasme dont on voit les fruits tous les jours, malgré tout ça, malgré ce qu'ils sont en train de construire, Jésus, au milieu de ce marasme, continue à bâtir son Église. Il continue et il continuera jusqu'au moment où il déterminera le grand stop. On arrête. Venez, mes enfants, venez. Il construit l'Église. Et j'aimerais lire avec vous ce matin un passage dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 17, où il nous est dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Et la conséquence de tout ça, au chapitre 2, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On pourrait passer des heures, simplement sur la richesse de ces textes. Mais nous n'avons pas des heures devant nous. Je sais que les prédicateurs sont toujours trop longs. Mais j'aimerais retenir cette phrase. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais on n'a pas le temps de tout voir, bien sûr, mais simplement des apôtres. Et j'aimerais voir avec vous comment le Seigneur bâtit son Église avec un fil conducteur, avec quatre aspects concernant quatre apôtres. Et nous allons voir ces quatre aspects qui vont traverser les siècles. Et Jésus va travailler avec son Église, avec ces quatre aspects, et ces quatre aspects que nous devons avoir aussi personnellement dans nos vies. Ces quatre apôtres, il y en a trois qui étaient particuliers, qui étaient très proches de lui, Pierre, Jacques et Jean. Et le Seigneur les a invités à vivre des temps particuliers avec ces trois disciples. Ils ont, que ces trois-là avec le Seigneur, assisté à la résurrection de Jaïrus. Le Seigneur les a pris avec lui, à part. Et puis, avec ces trois-là, il les a emmenés aussi sur la montagne de la Transfiguration. Ils ont vécu, ces trois-là, ce temps particulier avec le Seigneur. Et puis, il les a emmenés, plus proche de lui, à Gethsémané. Leur montrant que, voyez, je suis la résurrection et la vie. Vous avez vu ce que j'ai fait avec la fille de Jaïrus. Et plus tard, voilà la gloire que vous aurez. Et sur cette montagne de la Transfiguration, ils ont goûté à cette gloire. mais il les a aussi amenés à Gethsémané. Cette résurrection, cette gloire, elle aura lieu parce qu'il y a eu Gethsémané et que tout repose sur son œuvre. Tout repose sur le fait qu'il a cédé, obéi à la volonté du Père. Tout repose. Ils ont appris ça, ces trois apôtres. Et puis, on va voir que plus tard, il va y avoir un autre apôtre, Paul. Avec ces quatre apôtres, ça va être quatre aspects que le Seigneur va nous enseigner. Premier apôtre, l'apôtre Jacques. Premier aspect, Jacques, qui a vécu la Pentecôte, et accompagnez-moi dans Actes au chapitre 12, où il nous est dit, au chapitre 12 des Actes, au chapitre, verset 1er, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Jacques, frère de Jean, premier aspect de l'Église. Jésus bâtit son Église au milieu de beaucoup de souffrances, frères et sœurs. C'est le premier aspect. Il y a eu Étienne avant Jacques, mais Jésus bâtit son Église et son Église passe par beaucoup de souffrances. Ça sera le cas dans tous les siècles. Ça sera le cas aujourd'hui et demain, frères et sœurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de nous exercer à souffrir. Vous allez souffrir, nous dit la parole. Armez-vous à la pensée de souffrir. Et nous le savons tous que les souffrances sont multiples. Pour l'un, ça sera ça, pour l'autre, ça sera autre chose. Il n'y a pas une souffrance qui est plus forte, plus dure que l'autre. Quand on la traverse, on la traverse. Armez-vous à la pensée de souffrir. Paul dira à son jeune Timothée, « Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Elles ne nous seront pas épargnées, frères et sœurs. Et vous le savez, vous en avez, je vois des anciens, vous en avez traversé. On en traversera. C'est beau, les concerts de hier soir. C'est beau. C'est un aspect de la vie chrétienne. On a besoin de temps comme ça. Mais c'est un aspect. Armez-vous à la pensée de souffrir. Deuxième aspect, c'est Pierre. Et j'aimerais lire avec vous dans Matthieu, au chapitre 16. Chapitre 16, et verset 18. Pierre s'adresse à Pierre. Jésus s'adresse à Pierre, pardon, et il lui dit, « Moi, je te le dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. » Voilà ce que Pierre reçoit comme mission. Il doit ouvrir le royaume de Dieu. Il doit ouvrir. Mais c'est Jésus qui bâtit. Pierre va être l'instrument des projets du Seigneur. Mais c'est toujours le Seigneur qui bâtit. Mais dans sa grâce, eh bien, il nous fait ouvrir avec lui. C'est par pure grâce. Et c'est extraordinaire de voir le Seigneur. Comment le Seigneur vient nous chercher dans la banalité de notre vie. Le Seigneur est en train de se promener au bord du lac de Galilée et là, il rencontre Pierre. Et il voit Pierre qui est en train de jeter les filets. Et Pierre jette son filet. Il est au bord de l'eau, Pierre. Et il jette son filet. Luc nous dira que à un moment donné, Jésus est monté dans la barque et il a demandé à Pierre d'aller en pleine eau. Et il lui dit, là, en pleine eau, jette ton filet. Et c'est exactement les deux clés que le Seigneur va lui donner. Le jour de la Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit. Il sort et Pierre, là, il s'adresse aux Juifs. Il va prendre cette première clé, il va lancer le filet, mais que sur les Juifs. Toujours les Juifs en premier. Et il lance son filet sur les... Il est au bord. Et là, 3000 conversions. Wow, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, plus tard, le Seigneur, avec une révélation, va l'envoyer chez Corneille. Et il va chez Corneille, il n'a même pas fini de parler que là, le Saint-Esprit descend. Pierre est même étonné, il est là, il est surpris lui-même. Et Pierre, ça va être la deuxième clé, l'ouverture sur les nations. Là, Pierre avance en pleine eau, c'est toutes les nations. L'évangile est ouvert à toutes les nations, sans exception. C'est la deuxième clé, avance en pleine eau. Et là, Pierre est en pleine eau, il est en pleine eau. Pierre devra apprendre une grande leçon avec cette nappe que le Seigneur lui montre, avec tous ces animaux impurs. Ça surprend Pierre, il ne comprend pas, il est en train d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce que le Seigneur déclare pur, tu ne dois pas le déclarer impur. Le Seigneur est en train de lui apprendre que tu n'as pas à regarder personne. Personne comme impur, mais que chaque personne, à cause de l'œuvre du Seigneur, chaque personne dans ce monde a la possibilité d'entrer dans le salut de Dieu. Ne regarde plus personne comme impur, Pierre. Cette personne qui est en face de toi, peut-être qui te déplaît, peut-être qui te raille, elle a aussi la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un apprentissage. Pierre doit apprendre. Et j'aimerais voir avec vous, dans Matthieu au chapitre 13, il y a là toutes des paraboles qui nous parlent du mystère du royaume de Dieu. J'aimerais retenir simplement la dernière en Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. C'est ce que Pierre a fait. Il a jeté ce filet pour toutes les nations. Il a jeté le filet sur ce monde. Et la Bible nous dit, jette le filet en pleine eau et amassant des poissons de toute espèce. Il y a des hommes, des femmes de toute espèce dans le filet de l'évangile qui est lancé sur ce monde. De toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et quand, après s'être assis sur le bord du rivage, ils mettent dans un vase ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront, sépareront les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. On voit qu'à certains endroits, ils n'ont pas tout compris. Mais la Bible dit qu'ils ont tout compris à ce moment-là. Bon, voilà. Le mystère du royaume de Dieu va être l'ensemble de la chrétienté ou de tous ceux qui se déclarent chrétiens, qui à un moment donné entendent l'évangile. C'est le grand filet qui est jeté sur ce monde. Et dans ce filet, il y a toutes sortes de catégories. Il y a aussi des bons et des méchants. Mais ce n'est pas à nous de faire le tri. Ce n'est pas à nous de dire que celui-là, il va. Ça, c'est le travail des anges. Hein? C'est pas notre travail. Le mystère du royaume de Dieu est lancé. Le mystère du royaume de Dieu, c'est de placer et de se placer nos vies sous la souveraineté du roi de ce royaume. C'est la souveraineté du Seigneur Jésus. On le dit dans cette prière qu'on connaît par cœur, que ton règne vienne sur ce monde, mais dans ma vie surtout, dans ma vie, que ton règne vienne. Et Dieu va confier l'évangile du royaume de Dieu aux hommes. Quelle responsabilité extraordinaire il nous donne. Quelle confiance le Seigneur fait à des hommes aussi fragiles que nous. Il va confier l'évangile du royaume de Dieu à chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes ouvriers avec lui. Et nous confier l'évangile, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et c'est Pierre qui a ouvert l'évangile au monde. Il y a des conversions en pagaille, mais l'Église n'est pas le royaume de Dieu. Mais l'Église découvre le royaume de Dieu. Elle découvre l'autorité du roi. Elle découvre les bienfaits de l'autorité du roi. Quand le Seigneur règne sur nos vies, on en voit les conséquences. On en voit les conséquences. On goûte les bienfaits du Seigneur Jésus. On goûte son pardon. On goûte sa présence. On goûte les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et on avance dans ce royaume. On découvre ce royaume. Et avant que Pierre ne jette le filet sur le monde par l'intermédiaire de Corneille, de l'expérience qu'il fait chez Corneille. Ça, c'est le verset 10 des Actes. Mais au verset 9, le Seigneur est en train de préparer l'instrument qui va s'occuper des païens. Il prépare l'apôtre Paul. Vous voyez comment il construit son église. Pierre va aller chez Corneille, mais déjà, il prépare l'apôtre des païens au chapitre 9. Et cet apôtre, ce Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, va être le troisième aspect de comment le Seigneur bâtit son église. Et j'aimerais voir un autre passage pour venir à Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 9. Paul va donner cet aspect que Dieu lui donnera d'accomplir. Il nous dit au chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà le fondement. Et Paul va être cet instrument de Dieu qui va continuer à bâtir le royaume de Dieu. Pierre ouvre le royaume de Dieu aux Juifs et aux nations. Paul nous montre comment bâtir la maison de Dieu. Pierre ouvre le royaume, mais Paul est établi pour donner toutes les révélations de son royaume. Révélation de l'Église, comment il faut se conduire dans l'Église. Révélation de ce qu'est Jésus-Christ et ce que doit être Jésus-Christ pour nous. On a chanté tout à l'heure, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On le chante, c'est bien, c'est une réalité. Mais c'est une découverte. C'est une découverte, ça ne se fait pas en une seconde. Il a encore besoin de grandir. Le Seigneur, nous avons besoin de découvrir. Et c'est tout l'œuvre de Paul. Et quand on lit les œuvres de Paul, on peut être bouleversé par tout ce que cet homme a reçu de Jésus. Les révélations extraordinaires qu'il a reçues, c'est incroyable. On a encore, enfin moi, j'ai encore pas tout pénétré, tout réalisé vraiment. Tout ce que Paul a reçu du Seigneur Jésus. C'est énorme ce que cet homme a reçu de Jésus. Énorme, énorme. Quand on lit ses épîtres. Et dans Colossiens chapitre 1er verset 27, il nous est dit, Dieu a voulu leur faire connaître à ces païens, à ce monde, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en comptant sur sa force qui agit puissamment en moi. Vous voyez, c'est à ça que Paul s'acharne à travailler. Et vous voyez, Paul vient d'apprendre aussi lui-même ce que Pierre a appris. Tout homme. Il a appris aussi, Paul, à regarder personne comme impur. Mais il annonce ce message à tout homme. Deuxième aspect. Il y a Pierre qui a vu la nappe avec toutes sortes de choses impures dans cette nappe, mais qui ont été à un moment donné touchées par l'Évangile. Paul, lui, il doit édifier tous ceux de la nappe de Pierre. Il doit édifier, enseigner le royaume de Dieu. C'est ce qu'il va s'acharner à faire. Et Paul va vivre ces trois aspects. Il va vivre la souffrance. Il va vivre à ne regarder aucun homme comme impur. Et il va vivre ce troisième aspect, enseigner les révélations. J'aimerais bien rentrer dans tous les mystères des révélations de Paul. Mais est-ce que je suis prêt à affronter toutes les souffrances qu'il a affrontées? Oh, il a reçu des révélations extraordinaires. Il pourrait même dire, vous pouvez vous rendre compte de toutes les révélations que j'ai reçues. Ce n'est pas révélation. Mais il a fallu combien de souffrances pour avoir toutes ces révélations. Il a vécu la souffrance. Et puis, Pierre est mort. Jacques est mort. Paul est mort. Et l'inquiétude de ces apôtres, avant de mourir, c'est qu'ils voyaient tous les dangers qui attendaient l'Église. Ce n'est pas nouveau. Ils nous parlent, Pierre, Paul, de tous ces faux prophètes qui ont déjà infiltré l'Église, tous ces faux enseignements qui ont déjà infiltré l'Église. Ils voient que beaucoup, beaucoup ont abandonné la foi. C'est la désolation de Paul. Malgré tout ce qu'il a enseigné, malgré tout ce qu'il a reçu du Seigneur, il pourra dire « Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle ». Il pourrait dire « Ceux d'Asie m'ont tous abandonné ». Combien ont abandonné la foi? C'était une tristesse terrible, terrible chez Paul. C'est une tristesse aussi aujourd'hui dans l'Église. Quand nous en voyons qui partent, qui abandonnent la foi comme Démas, c'est une tristesse, c'est une constance, malheureusement. On ne pourra jamais s'en réjouir. Jamais. Jamais. Et ces apôtres sont morts. Et il manquait un aspect. Et ce quatrième aspect, c'est l'apôtre Jean qui va nous en parler. Vous avez remarqué qu'à partir du chapitre 12 des Actes, il ne nous est plus parlé de Jean. On le voit au chapitre 12, quand Jacques est assassiné, c'était le frère de Jean, mais on n'entend plus parler de Jean. On ne sait plus ce qu'il est devenu. Et puis, par les Écritures, on sait que c'est le dernier apôtre, que c'est le dernier évangile, que ce sont les dernières épîtres, que c'est le dernier livre de la Bible. Jean a un message particulier, un message pour tous les temps, pour tous les siècles, tout ce qu'a traversé l'Église, mais un message prophétique pour nous qui arrivons à la fin des temps. Un aspect prophétique que nous devons vraiment chérir dans nos cœurs. Ce qui caractérise le ministère de Jean, c'est la possibilité, frères et sœurs, d'une restauration spirituelle, même dans des temps de déclin spirituel. Jean, les évangiles, Matthieu, nous montrent que quand le Seigneur se promenait près de cette mer de Galilée, il a vu Pierre au bord et lui a dit « Jette ton filet ». Il a fait de lui un pêcheur d'hommes. Le Seigneur a continué, il a fait quelques pas de plus, il est arrivé à Jean. Et il a vu Jean au bord de ce lac, mais il ne lui a pas dit « Jette le filet ». Il lui a dit « Jean était en train de réparer les filets ». Ça va être tout l'aspect, le travail de Jean. Réparer les filets. Réparer à ce qui a été cassé. Réparer ce qui a été brisé. Jean nous ramène à l'essentiel même du royaume de Dieu. Dans sa première épître, il nous dira « La vie a été manifestée. » Elle a été manifestée. Et Jean s'adresse à nous encore aujourd'hui pour trouver ou retrouver la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. C'est pour ça que le premier chapitre parlera tant de sa première épître, parlera tant du sang, base de sa communion, base de la communion avec notre Seigneur. Son sang nous purifie de chaque péché. Quand nous avons péché, quand nous le savons, revenons vite, confesser, pardonner, laver, pour tout de suite retrouver la communion avec le Père et avec le Fils. Frères et sœurs, Paul enseigne en détail. Il va expliquer en détail la vie de l'Église. Il va expliquer en détail comment vivre avec Christ. Paul enseigne. Jean va résumer l'enseignement de Paul en une seule phrase. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il résume en une seule phrase. Jean ne dit rien sur le voile que les sœurs devraient mettre. Jean ne dit rien sur le comportement du mari. Il ne dit rien sur le comportement de la femme. Il ne dit rien sur un tas de choses. Il résume ça en une seule phrase. Aimez-vous les uns les autres. Il résume tout. Cette phrase dit tout. Son travail à Jean, ce n'est pas de remettre de l'ordre dans l'Église. Son travail, c'est de restaurer le témoignage de Jésus-Christ dans les cœurs, à l'intérieur de nous-mêmes. Témoignage de Christ à l'intérieur. Paul, comme un sage architecte, nous apprend tout sur l'Église. Comment bâtir l'Église? Il nous apprend tout sur une vie en Christ. Jean nous rappelle à revenir à la révélation intérieure de Jésus-Christ. Jean sait qu'il est le dernier apôtre. Jean sait qu'il arrive à la fin de sa vie. Pierre est mort, Paul est mort, Jacques est mort. Jean regarde la condition de l'Église. Il voit tous les dangers que l'Église court. Il voit déjà le déclin de l'Église. Et Jean ne peut pas se satisfaire de ça. Il craint pour l'Église. Il craint, il voit le déclin. Alors, il tente de ramener les frères et sœurs à la communion du Père et du Fils. C'est son fardeau, ramené à l'onction reçue. L'onction déjà reçue, frères et sœurs, qui conduit dans toute la vérité. Dans sa première épître, Jean parle à tous. Je vous écris, Père. Je vous écris, jeunes gens. Je vous écris, petits enfants. Il s'adresse à tous. Dans sa deuxième épître, il s'adresse à une famille, à une femme, avec ses enfants. C'est plus réducteur. Mais l'Église est comme une femme qui enfante des âmes. Dans sa troisième épître, Jean, s'adressera à son ami. C'est-à-dire qu'on est tous concernés, tous individuellement, à chérir cette communion avec Dieu. Paul est préoccupé que tous parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Jean, lui, est préoccupé que tous ceux qui connaissent déjà le Seigneur continuent à marcher dans la communion avec le Seigneur et ne lâchent pas la main du Seigneur. Paul dévoile les mystères de Christ déjà révélés. Jean nous dit de nous rappeler et de vivre ce qui nous a déjà été révélé. Frères et sœurs, j'étais étonné, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et en préparant ce message et en lisant cette première épître de Jean, elle est courte, elle a 5 chapitres. Mais j'étais étonné. C'est pas vieux, hein, on découvre, on apprend. J'ai été étonné, j'ai relevé, je ne vais pas tout le lire, mais j'ai relevé. C'est un exercice qu'on peut faire, mais tellement j'ai été étonné. Plus dans ces 5 petits chapitres, plus de 50 fois, il nous a dit que nous savons, nous avons appris, nous avons entendu, nous avons vu, nous avons contemplé. Dans notre vie chrétienne, on a vu le Seigneur agir, on a contemplé, on a eu des témoignages. Hein, vous avez connu, pour savoir, vous avez appris. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que quiconque est né de Dieu, etc. Nous savons que nous sommes de Dieu, etc. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Voilà, nous sommes dans le véritable. Nous savons. Et je me suis dit, Jean-Noël, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que le Seigneur a appris et que tu ne fais pas encore? Et je n'étais pas fier. Qu'est-ce qui t'a appris et que tu ne fais pas encore? Où est-ce que tu aimerais que tu t'y fasses et que tu ne fais pas? Vivre ce que nous savons déjà. C'est le souci de Jean. Et beaucoup de choses difficiles se font parce que nous ne faisons pas ce que nous savons déjà. Et comme tel, je pêche. Et il y a quelque chose de gênant entre ma communion avec mon Seigneur et moi. Nous savons, frères et sœurs. Dans son évangile, le Seigneur, quand il lave les pieds de ses disciples, quand il instaure la Sainte Cène et qu'il les enseigne, le Seigneur leur dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais ça continue, pourvu que vous les mettiez en pratique. Paul dira, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu, entendu, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Que le Seigneur nous aide, je vais m'arrêter là, pour d'avoir été trop long, je m'arrêterai là, il y a d'autres choses, mais bon, tant pis. Mais je n'étais pas fier quand j'ai appris, quand j'ai réalisé ça, en préparant ce partage, et je me dis, en considérant l'Église, il y a beaucoup de choses. Nous voulons des nouvelles révélations, nous voulons des nouvelles choses. C'est bien, c'est un bon désir, mais ce que nous savons déjà, frères et sœurs, si nous le pratiquions, quel bonheur, quelle grâce, que de miracles, que de choses extraordinaires se passeraient. Et je me disais que le Seigneur ne peut pas me donner une nouvelle révélation si déjà ce que je sais, je ne l'applique pas. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, pour voir l'Église évoluer déjà dans ce qu'elle a déjà appris et que nous puissions glorifier son nom en faisant ce qu'il nous a déjà appris. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, je n'étais pas fier devant toi, mais ce n'était pas pour me condamner, c'était pour me prendre conscience, pour que je sois en meilleure communion avec toi. Tu la désires tant, cette communion avec nous, parce que tu nous aimes tant, parce que tu continues à bâtir ton Église, parce que ces quatre aspects sont là, Seigneur. Il y a la souffrance, il y a, comme Pierre, Seigneur, ce filet qui a été jeté, et je ne dois plus regarder comme aucun homme, aucune femme comme impur, mais avec la possibilité d'entrer. Seigneur, tu nous as enseigné au travers Paul. Qu'est-ce que je fais de ton enseignement ? Et merci pour Jean, Seigneur, qui nous encourage tant, Seigneur, à chérir cette communion avec toi. Seigneur, merci de nous aider. Merci pour tout ce que tu nous as déjà appris. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à le vivre pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen.